Yann Joël Collin, est-ce que tu peux raconter la naissance de Violence?
Bah ouais, oui. Je vais raconter l'histoire de Violence. Oui, alors donc comme je dis souvent, on va dire, voilà, c'est pas détaché d'une histoire humaine, donc forcément d'une histoire d'amitié. Et Didier avait quelque chose quand même de très fort, c'est que les rencontres, d'ailleurs tout le monde, tous les gens qui l'ont rencontré, c'est à chaque fois des rencontres assez fortes, puisque il y a un lien qui se crée et on a l'impression d'avoir une présence très forte à ses côtés. Alors moi j'ai eu la chance en plus d'être vraiment à ses côtés pendant un certain temps. Donc quand je l'ai rencontré dans un stage, on s'est lié d'amitié, très vite on a créé...
Tu peux dire à quelle époque ?
C'était en 83, 84.
Ouais.
Et tout de suite après, il avait l'intention de monter l'échange de Claudel dans un garage. C'était au Centre Théâtral du Maine au Mans. Et il y avait déjà dans l'équipe qui devait jouer, c'était les quatre qui étaient en atelier avec lui. Et moi, je ne la connaissais pas encore très bien. Donc il m'a proposé d'être assistant avec lui. Et puis les quatre qui jouaient dans le spectacle, c'était Marc Bonnard, Jean-François Sivadier, Alexandra Cicluna et Catherine Boguet. Donc voilà, c'était un peu une folie dans un garage, dans un souterrain, mais vraiment avec... Après, d'ailleurs, les peu de fois où on a joué, il y avait quand même assez peu de monde. C'était pour une jauge de 50 places, quoi. Mais on travaillait 20 heures sur 24 avec Didier, donc on a l'impression d'être le centre du monde, qu'on va tout changer, le monde de notre garage. Et cette histoire-là est forcément liée à des passions, à une exigence très forte, et donc à un engagement... qui te fait croire que le théâtre est vraiment une chose où tu donnes tout. Comme quand tu es assez jeune, il y a un truc où tu te dis, tu te bats pour quelque chose, réellement. Et comme Didier donnait beaucoup de cette chose-là, tu as l'impression de partager avec lui cette force-là. Et puis, plus tard, donc on a continué à travailler pour un atelier. Et après un stage qu'on avait organisé, qui m'avait demandé d'organiser avec lui, de co-diriger le stage, même si j'étais stagiaire aussi en même temps, qui était sur l'Oresti. On a, en trois semaines, avec des gens qui n'avaient jamais fait de théâtre, d'autres qui en avaient fait, sorti de ce travail-là, les anciens, qui n'étaient pas encore des anciens si on veut, mais les gens qui fondaient un petit peu ce groupe, on s'est retrouvés en disant il faut absolument que Didier, son écriture, son travail, soit plus, entre guillemets, reconnu, qu'on arrive à constituer quelque chose. Donc on a été un peu vers lui, pour lui dire, bah, écoute, maintenant, il faudrait qu'on écrive une pièce que tu es malade et qu'on fasse quelque chose ensemble. Lui, il a tout de suite dit d'accord, mais qu'il fallait...
C'est-à-dire qu'avant, pardon, je te coupe, mais avant ça, tout ce que vous avez travaillé ensemble n'était jamais ses textes. C'était
des... Si, on travaillait ses textes, des fois, des morceaux de textes qu'il avait écrits, mais en atelier, comme ça, comme des travaux laboratoires. Mmh. Enfin, voilà. Et que c'est-à-dire qu'il s'attaque à ses propres textes ou à des textes classiques, quelque part, son rapport à l'écriture, rapport au plateau et rapport aux acteurs était de la même exigence. Mais c'est vrai qu'il expérimentait déjà sa propre langue sur le travail d'atelier, justement, parce que il, même là, on part sur un autre sujet, mais son travail d'écriture n'est pas détaché de son travail humain avec les acteurs. C'est-à-dire, même quand il écrivait un roman, il avait besoin d'être en atelier de théâtre pour pouvoir être nourri constamment de la respiration d'un acteur, et même dans ses romans, on a l'impression que c'est respiré, c'est rythmiquement proféré presque. Donc, c'est toujours lié à un travail d'atelier, quelque part. Ensuite, donc, après ce stage, donc, on s'est réunis, on était le voir à Paris, tout ça, on s'est dit, bon, là, maintenant, il faut qu'on avance. Et lui, il a dit, d'accord, mais il faut qu'on fasse un vrai travail d'atelier. Là, c'est constitué la proposition d'un groupe, et donc de Chang. Voilà, c'est lui qui a proposé ça, Chang. De dire pas grand chose. En fait, c'est le cri de l'ami de Tintin là, dans au Tibet, voilà. Et puis, oui. Je crois qu'il y a le G apostrophe qui est un peu TG. Il y a quelque chose de quand même aussi qui était quand même lié à lui, c'est qu'on propre contradiction, qui est quand même assez mégalomaniaque un petit peu. Il y a Chang et il y a un apostrophe G. Quand même, il est là, il est très présent. Ouais. C'est-à-dire même le premier nom d'association qu'on avait fait l'échange justement, c'était TG Group. C'est-à-dire théâtre, Didier, Georges Gabilly, groupe. Donc y a toujours un truc où sa présence, en même temps dans une volonté de partage, en même temps il est quand même le centre de ça. Mmh. Un peu, j'imagine, comme... c'est complètement différent puisque c'est un homme et tout ça, mais un peu cette chose-là qu'on peut sentir chez des personnages comme Mouchkine, ou je sais pas, une présence très forte qui vraiment fait que tous les gens sont rassemblés autour de lui, quel que soit son caractère, parce que ça passe. Il était quand même un personnage dans la vie, charismatique, mais caractériel, par moments humain, amoureux, passionnel, contradictoire, voilà, humain, bah. Terriblement humain, et terriblement doué, voilà, et intelligent. Donc voilà. Et donc, on a créé ce groupe Chang, et donc en même temps qu'on travaillait. Voilà. En même temps, il disait voilà, je vais écrire une pièce, mais en même temps, on va travailler en atelier. Et on a ouvert un atelier qui était, on va dire, ceux du groupe, et puis a ouvert un autre atelier qui faisait que d'autres gens venaient et nous rencontraient, donc c'était des amis, et puis ça fait un gros groupe en même temps.
Et ça, c'était où?
Ça, on le faisait dans un truc à Goncourt, dans un sous-sol, je me rappelle, c'était assez glauque, cet endroit tout petit. Et puis en même temps, on a fini par présenter un travail pendant un mois, on a travaillé à Chaoué au Mans, tout près du Mans, au théâtre de Coulaines, et là, on a présenté 8 heures de travaux sur les faits de Hippolyte.
Oui.
Et donc c'était assez, là aussi, encore une folie, parce que tu vois un groupe de 20-25 personnes qui pendant 8 heures, font du Garnier, du Racine, du Rixos, s'il y avait encore il y avait Échille, il y avait tout ce qui était autour des faits de Hippolyte. Et en même temps, commençait à écrire Violence. Alors donc forcément, Violence, c'est le premier texte, même s'il avait écrit d'autres œuvres, le premier texte qui fondait même le groupe de chant, mais fondait aussi son travail avec des acteurs. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était écrit pour des acteurs, donc en l'occurrence aussi pour moi. Donc effectivement, quand tu vois sortir de l'ordinateur le texte qui va être dans ta bouche, au-delà du fait que déjà c'est un énorme cadeau que quelqu'un écrive pour toi, mais comme on avait commencé déjà à travailler avec Didier et qu'on commençait à connaître aussi sa langue, sa façon d'appréhender, quand tu vois la chair des mots et que tu comprends comment c'est écrit, c'est vraiment le monologue de la décharne, etc. Tu te disais, non, là, vraiment, tu as déjà ton plaisir qui naît mais c'était un peu paradoxal, parce qu'il te donnait ça, c'est tellement au-delà d'un cadeau que tu as même du mal à l'appréhender, et tu es forcément en deçà de sa demande de dire oh, regarde ce que j'ai fait pour toi un petit peu. Donc c'est.
Il l'écrivait entre les répètes, la nuit ou
la nuit, il écrivait sur son ordinateur. Ben, il écrivait aussi par écrit, mais puis il écrivait directement sur l'ordinateur avec son alcool en même temps et tout ça, et les clopes. Et on venait des fois lire la nuit sur l'ordinateur parce qu'il avait besoin, même ses romans, il avait besoin de les entendre. Donc des fois on se retrouvait après une discussion à être un peu piégé, on va dire, mais dans le bon sens du terme des fois. Parce que des fois on était un peu crevé pour lire sur son ordinateur avec une sorte de pression de sa part de nous regarder et d'entendre la langue de Didier, que ce soit roman ou texte de théâtre. Donc on a vu commencer à se constituer Violence 1 comme ça, et puis il a écrit aussi Violence 2 pour regrouper le maximum des acteurs qui étaient du groupe Chang au départ. Quoi. Donc c'était vraiment spécifiquement pour des gens. D'ailleurs même là maintenant qu'on reprend plus de 10 ans après le Violence, ce qui m'a poussé à accepter le fait que de reprendre et le rendre plus spectaculaire, de présenter un vrai projet sur Violence, c'est surtout qu'après le travail d'atelier, je voyais que les gens disaient, vu le travail qu'on avait fait, qu'on avait l'impression que ça avait été écrit pour ces acteurs-là. Donc alors là, quelque chose de la transmission devenait pour moi pertinente et juste reprendre la langue de Didier, c'est que ce qu'on a fait à l'époque, c'était vraiment écrit pour nous. Et que là, d'un seul coup, avec des jeunes acteurs qui n'ont jamais connu Didier, qui l'ont appréhendé à travers moi, etc., d'un seul coup, quand on dise, on dirait que c'est pour eux, ce texte, et bien à nouveau, une nouvelle aventure unique se partageait et qui est vraiment l'esprit de Didier à ce niveau-là.
Donc, tu dis ce qui m'a poussé à accepter, c'est le TNS t'a demandé de monter.
Non, ça ne s'est pas passé comme ça en fait. On a présenté. C'est moi qui ai proposé de travailler sur Violence. Mais alors.
Sur Gabili d'abord, c'est ça
Non, pas du tout. Non. Moi, je n'avais pas du tout envie de travailler sur Gabili, a priori. Depuis même la mort de Didier, encore plus. C'est-à-dire que moi, j'étais très proche de Didier, j'étais capable pendant le travail, des fois même. J'aurais jamais remplacé Didier, hein, mais. S'il partait 3 jours, j'étais capable de reprendre le travail, parce que je connaissais bien, j'étais très au service de Didier. Mmh. Et je voyais comment il fonctionnait sur le plateau avec les acteurs. Et donc, j'avais l'impression de comprendre physiquement et intellectuellement sa démarche. Maintenant, comme un super assistant, c'est-à-dire pas comme un metteur en scène de, sa, de son écriture. Donc, et il me paraissait aberrant que, après sa mort, de monter un texte de Didier Moi, qui aurait été qu'un travail d'assistant. Et donc, plaquer, quelque part, ce que je sais du travail de Didier sur l'écriture de Didier, ça m'embêtait. Je ne voyais pas ce que... Si j'apportais pas à moi quelque chose, je ne voyais pas l'intérêt.
Ça, c'est une première chose. Pardon, alors continue.
Oui, vas-y.
Non, ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas eu cette proposition de l'école du TNS, donc de travailler avec des jeunes gens qui, à l'époque, étaient encore élèves, c'était quoi, il y a 2 ans?
C'était, oui, à peu près 2 ans. Ils étaient élèves, c'était leur dernière année.
Mais donc, s'il n'y avait pas eu cette proposition,
j'aurais pas
au départ, l'atelier,
j'aurais pas monté Gabi. Et puis, d'abord, il y avait une pudeur. Parce que je voulais pas qu'il y ait une sensation de récupération de ma part. J'ai vu trop de choses un petit peu comme ça, parce qu'on parle de Didier, tout ça, et j'étais assez gêné. Surtout que les dernières années avec Didier, même si on se voyait de temps en temps, c'était plus tendu, parce que j'avais créé le groupe La Nuit Surprise par le Jour, il y avait une distance qui s'était créée, et donc, oui, j'aurais eu l'impression un peu rapace de ça, et donc, et j'ai toujours fui, moi, en plus, les colloques des metteurs en scène ou les colloques sur Didier, parce que ce que j'entendais de ça, même des anciens, me plaisait pas forcément, et j'avais pas envie de rentrer dans cette polémique, parce que je pense que chacun a sa part de Gabili, différente. Et puis, oui, je crois que ça me plaisait pas. Voilà. Et donc, l'idée même de monter Gabili, il y avait quelque chose où je me disais, ça ne m'appartient pas encore. Je ne vois pas encore à quel endroit je saisis réellement la langue de Didier. Peut-être quelque chose aussi, j'avais une peur aussi du contemporain, du texte contemporain. Je me sentais quand même plus à l'aise avec Shakespeare, Brecht, voilà, qu'avec une langue contemporaine. Donc, quelque part, j'ai l'impression que ça me dépasse peut-être un petit peu. Naïvement, hein. Et puis, malgré que je pense que j'étais sans doute la personne qui comprenait au mieux l'écriture de Didier, hein, et son travail. Mais ça n'empêche, ça ne me dit pas que je vais, moi, le monter. Et puis, en me disant que j'allais travailler avec les élèves, d'abord, je leur ai dit, ben voilà, on va travailler de telle façon, collectivement, machin, et puis en même temps, je dirige, etc. Comment on réunissait techniciens et acteurs. Mais a priori, je n'avais pas du tout l'intention de monter du Gabili. C'est un petit peu à cause.
C'était
de...
un atelier au départ.
C'était non, je devais monter un spectacle, une
D'accord.
présentation, quoi.
Il y avait un projet.
Mais je
ne
savais pas trop quoi, j'avais aucune idée. Et donc, je cherchais plutôt quelque chose d'assez ludique, genre le son génieté, ou je ne sais pas quoi, mais comme j'avais déjà fait ça dans un autre stage, mais bon. Parce que à chaque fois que je fais un stage, moi je ne sais pas faire des ateliers, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Je fais...
une mise en scène. Enfin,
oui, un projet.
Ouais.
Un projet humain, parce que où ça me remet en question, où ça les remet en question, et où je me fous complètement que ce soit des jeunes acteurs ou pas. C'est-à-dire qu'on est en travail ensemble. Et quelque part dans un but d'accomplir quelque chose ensemble. Mmh. Tenter d'accomplir. Et donc, à partir de là, il y a à cause de Stanislas Nordet qui montait ça, j'ai... Et puis que je l'ai recroisé un jour à Marseille, qui était un peu perturbé par l'écriture de Didier, qui a beaucoup d'admiration, mais en même temps était, je crois, sur des idées par rapport à Didier, alors que je crois que les choses étaient plus simples. Alors ça m'a obligé à replonger dessus. Puis en replongeant dessus, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est quand même une langue écrite pour... Justement, nous, ça nous a grandi à l'intérieur de cette traversée de violence, et ça nous a fait traverser... cette aventure théâtrale nous a fait traverser la langue de Didier, mais aussi notre histoire de théâtre. Il nous a formés quelque part. Et je me dis, tiens, elle a quelque chose de ça, ça serait peut-être pas mal pour des jeunes acteurs. Et puis en même temps, je me dis, mais effectivement, quand c'est écrit, on a l'impression que tout se constitue, et qu'en même temps, c'est écrit pour des acteurs qui, en même temps, cette langue les forme en même temps qu'il la dit, et qu'il la formule. Mmh. En même temps qu'il la profère, il y a quelque chose qui se construit à vue avec eux s'ils suivent ce mouvement de la langue. Donc je me dis, tiens, c'est vraiment pertinent. Puis en même temps, je me disais, mais non, c'est beaucoup trop gros. En 6 semaines, on ne va pas monter violence, un diptyque. Ça me paraît monstrueux. Et puis, donc, comme c'était tombé dans la petite tête, eh ben, je ne pouvais plus m'en détacher. Au bout d'un moment, j'arrivais à chercher ailleurs, mais j'arrivais pas. Je revenais constamment sur violence. Donc, à un moment, je leur ai balancé ça. Là, ils ont eu un peu un choc. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu excités. Et d'un seul coup, il y a eu une chute. À part un ou deux qui avaient adhéré sur la langue de Didier, les autres, ils se demandaient ce que c'était que cet animal-là. C'est-à-dire que ou c'était complètement incompréhensible, invitable, cette chose-là, ou verbeux. Ou... ils comprenaient pas l'enjeu. Et de toute façon, c'est très difficile souvent pour un lecteur qui ne connaît pas le travail de Didier de l'appréhender, à moins d'être vraiment un littéraire, d'avoir cette envie-là déjà de l'écriture, une compréhension de ce mouvement-là. Autrement, c'est un peu difficile et les gens ont un peu une distance. Si elle n'est pas passée par l'oralité, par la profération, comme je disais tout à l'heure, eh ben, cette évidence et ce concret ne vient pas forcément comme ça à regarder. Donc, sur le début, ça a été un peu difficile à ce niveau-là. Et puis, même pour moi, parce qu'après, sur le travail même, je me suis aperçu qu'ils avaient des a priori, ils trouvaient ça a priori très cérébral, alors que c'est tout le contraire, c'est très charnel, la langue de Didier. Et il a fallu, dès le début des travaux, commencer à revenir très vite. Je me suis aperçu qu'il fallait que je travaille 2-3 heures par jour avec eux, à la table, pour qu'ils trouvent leur corps à l'intérieur de cette langue. Ça ne soit pas une chose abstraite, on ne parle pas de langue en faisant « Oh, c'est de la belle langue », je ne sais pas quoi. Non, réellement, cette langue travaillée devienne leur corps et que réellement, ils naissent réellement de la rythmique, de la profération de cette langue, quelque chose d'eux-mêmes. Et ça, c'est une autre démarche que psychologique ou de jeu tel qu'on leur a appris ou tel qu'on leur enseigne en général, qui est, voilà, où on leur enseigne plus à devenir comédien, donc à jouer à être comédien, plutôt qu'à être, et à être justement sur le sens, et non pas sur, alors c'est souvent plus sur l'intention, sur le pléonasme plus, et plus sur ce qu'ils sont comme, on va dire, habiles comédiens, habiles artisans du théâtre. Alors que là, c'est une autre traversée que je leur demandais. Et comme ça oblige à beaucoup de remises en question, y compris la mienne, parce qu'au début, pendant 2 semaines, on n'avait fait que 5 minutes de spectacle, alors qu'on devait en faire presque 4 heures, ils ne comprenaient plus très bien où on allait. Mais heureusement, je suis tombé sur un groupe très solidaire, qui était un peu différent des groupes qu'on reconnaît dans les groupes, on va dire, de soi-disant élite d'école. Donc très solidaire entre eux.
Ils sont tous sur le plateau ?
Ouais, sauf un qui ne pouvait pas faire le projet parce qu'il était parti sur un autre projet. Donc,
d'accord. Et donc tu as ajouté, entre guillemets, 3 acteurs. Il y a Xavier Brossard qui a déjà travaillé avec toi.
Oui, mais qui n'avait jamais travaillé avec Didier.
Ouais. Et par contre, il y a...
Egon et Numa qui sont des personnages que j'avais coupés en travail d'atelier parce qu'il a fallu monter la totalité. J'avais monté que les 2/3, donc là maintenant il fallait recomposer l'ensemble, retraduire tout ça ensemble et donc rajouter les 2 rôles qui manquaient qui étaient Egon et Numa, et donc il me semblait juste que ce soit 2 acteurs âgés comme des passeurs qui portent avec eux la langue de Didier. Alors Oula, parce qu'elle était déjà à la création et que c'est assez beau de voir de seul coup le face à face entre une jeune fille qui fait la reine mère, et elle avait créé le rôle de la reine mère et elle jouait aussi Numa. Et d'un seul coup, elle ne fait plus que Numa, mais elle est d'un seul coup dans cet effet de miroir que ça me touchait, d'un seul coup, qui est cette conduction. Et puis Bruno Servin, lui qui n'avait rien à voir non plus avec l'histoire de Didier, mais qui est un acteur d'abord assez impressionnant, moi j'ai joué avec lui, donc, qui est aussi, qu'il le veuille ou non, des fois, parce qu'on n'est pas toujours très d'accord sur la façon de formuler le théâtre, mais en même temps c'est quelqu'un qui est très proche de la langue, une sorte de... c'est un peu péjoratif ce que je veux dire là, parce que c'est pas juste, mais dans l'incuni du théâtre. Il y a quelque chose où il porte la langue comme ça.
C'est pas très péjoratif.
Non, c'est pas ça, mais j'aime pas comparer, c'est pas péjoratif, mais c'est réduire Bruno Sermon à quelque chose de représentatif, alors qu'il est lui-même quelqu'un de remarquable. Et donc, j'avais pensé à lui... En fait, au départ, il ne pouvait pas, donc j'ai contacté d'autres gens très différents, mais c'est marrant. Et puis, en fait, finalement, il pouvait. Donc, voilà. Mais lui-même a eu du mal avec la langue de Didier au début, en lecture, parce que et il faut du temps pour l'appréhender autrement. Et que ça fait partie d'une autre histoire pour lui. Et donc, voilà, je trouvais ça assez beau qu'il soit ces 2 concierges, 2 vieux acteurs, on va dire, et qui, d'un seul coup, nous ramène aussi le lien avec l'histoire du théâtre. Parce que c'est un peu ça chez Didier. Il y a l'histoire du groupe à l'intérieur, mais il y a aussi l'histoire du théâtre et l'histoire de l'humanité à travers tout ça. Donc, c'est comme si on remettait à chaque fois sur l'établi tout ça, tout en chantier.
Allez. C'est ça, c'est pour ça que quand tu dis que tu avais peut-être aussi un peu de mal avec un texte contemporain, c'est assez curieux parce que je trouve que Gabi, ça va au-delà d'un texte contemporain. Enfin, c'est un texte contemporain et qui en même temps est traversé par, je ne sais pas, Eschyle.
Oui, c'est vrai.
Shakespeare, puis toi t'en rajoutes. Enfin, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est la Commedia dell'arte, Falstaff, etc.
Oui, mais en fait, non, c'était, ben, évidemment, il y a quelque chose, on va dire, de ma touche personnelle, de l'équipe de La Nuit Surprise par le Jour. C'est un rapport un peu ludique à la chose, mais ça, c'est aussi écrit dans le texte. C'est pas écrit que la reine mère va se costumer de différents costumes, puisque c'était Oula qui était déjà assez forte. Donc, c'est pas ça, mais c'est que, quand même, l'idée de que l'acteur se constitue à vue dans l'écriture, à travers le mouvement même de l'acte théâtral, a quelque chose du même esprit de mon travail. C'est-à-dire que même si les derniers projets que j'ai montés, on peut pas dire que l'esthétique présentée ressemble à l'esthétique des projets que Didier avait créés, on en est loin. Mais par contre, sur l'esprit même, de qu'est-ce qu'elle sent, c'est comment on travaille le plateau
de la fabrication,
pour moi c'est le même mouvement. Donc à ce niveau-là, je l'ai pas inventé, c'est vraiment beaucoup Didier qui est permanent.
Quand je dis t'en rajoute, c'est que la naissance de la reine mère, la constitution du personnage renvoie directement au Falstaff que faisait Christian Esnée dans.
Tout à fait. Bah oui, on a
dans Henri IV, c'est.
On a pratiqué le même processus d'un acteur qui n'est pas a priori le personnage, comme on dit. Il suffit de lui mettre un tas de vêtements pour qu'il devienne une forme. Et puis que finalement aussi, tout le travail, ça passe aussi que réellement, c'est pas simplement de montrer à vue ce processus-là, c'est aussi le vivre. C'est-à-dire que l'actrice elle-même, endossant ce costume, ça lui donne un poids, et elle-même, travaillant sur la langue de Didier, se constitue à vue avec
nous.
Modifie. Et d'un seul coup, on voit cette transformation réelle, et d'un seul coup, d'avouer le théâtre, on avoue et on rend ça beaucoup plus crédible. Et le spectateur est lui-même aussi dans le processus. Donc finalement, accède beaucoup plus facilement que si on disait, voilà, c'est la reine mère, on lui avait fait un gros costume, et on sait que c'est un costume. Alors que là, effectivement, on l'avoue directement, et quelque part, on est avec elle, en train de faire ce travail. Et finalement, on l'accepte aussi beaucoup plus facilement. Puis c'est aussi la langue de Didier, c'est-à-dire que c'est pas pour rien que, dans la didascalie, il dit qu'elle commence tout petit, peut-être qu'il y aura un micro, pas un micro, et puis que les choses avancent tout doucement et que ça s'agrandit, mais c'est aussi la présence de la personne qui aussi devient conséquente au fur et à mesure, et c'est aussi dans l'acte d'écriture de Didier, cette évolution-là. Chaque monologue même du début de Violencin a cette démarche-là. C'est-à-dire que moi je me rappelle la Deschamps, par exemple, je chante pas, merde, il dit quelques mots, puis au fur et à mesure, toc, la parole sort, et là se constitue aussi à vue la présence du personnage, entre guillemets, mais en fait, qui passe par le mouvement de l'acteur.
C'est naissances à chaque fois.
Voilà, exactement, comme un accouchement.
Ouais.
Et Didier était à ce niveau-là un vrai accoucheur, c'est-à-dire que c'est le plus grand directeur d'acteur que j'ai jamais rencontré, moi. Alors qu'il pouvait avoir des fois des contradictions quand il avait un peu trop bu ou autre chose, mais ceci dit, comme acteur. Dans le travail d'atelier, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui, qui réellement aimait passionnément la personne et qui le portait avec lui dans cette démarche sur le sens, sur la poétique même du texte et dans l'espace. J'ai jamais eu l'impression autant avec lui d'être écrivant sur le plateau, d'avoir l'impression d'avoir un corps qui a du poids, qui a réellement, qui construit, et donc tu te sens fort de ça. Et puis c'est vrai qu'effectivement chez Didier c'est un théâtre épique, donc effectivement j'avais, moi quand je disais une peur du théâtre contemporain, c'est dans le sens où souvent dans le théâtre contemporain, là je ne parle pas de Didier, j'ai l'impression que, en dehors de, je ne parle pas du théâtre d'appartement, parce que là il ne m'intéresse pas du tout, mais c'est réducteur à l'endroit du concept. Alors que chez Didier, c'est vrai que c'est dans une écriture qui est beaucoup plus épique, et donc qui passe toute l'histoire du théâtre un petit peu. Parce que là, ça peut rejoindre Shakespeare. Mais malgré tout, toutes les références qu'il y a aussi à l'intérieur, avant, j'avais l'impression que c'était aussi une démarche qui m'était un peu intellectuel, et je ne parle pas d'un sens péjoratif, mais une chose qui peut-être ne m'échappait. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, justement, en le travaillant là, en le relisant, qu'effectivement toute cette part d'écriture en jeu, là réellement je pouvais l'appréhender d'une façon simple et ludique. C'est-à-dire que réellement, comme Genet qui fait un commentaire après une scène, en disant, bah voilà, vous pouvez le monter comme ça, comme ça. Puis finalement, je ne sais pas, et puis peut-être que j'aurais pas dû écrire cette scène. Voilà. Et Didier constamment se remet en question dans son écriture.
C'est les paravents, là. Donc
oui, c'est les paravents. Ouais. Et Didier est constamment dans l'écriture en train de remettre en question même l'acte d'écrire. Mmh. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'auteur est totalement présent, mais il est présent avec l'acteur. C'est-à-dire que l'acteur lui-même se pose évidemment les mêmes questions. C'est-à-dire d'un seul coup, il va proférer une parole qui a l'impression d'être sortie des chiffres, comme tu dis. Puis d'un seul coup, il me dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi
oui,
je dis
ça? Oui, les personnages
et donc, cette conscience d'être en... ou cette inconscience parfois, d'être en train de fabriquer la chose, met doigt exactement sur l'acteur écrivant, comme l'auteur écrivant. On est tous au même endroit, y compris le spectateur finalement. C'est-à-dire que lui-même aussi est dans l'effet de surprise de constituer l'histoire, de reconstituer l'histoire. Donc, cette démarche-là, c'est vrai, rejoint. D'un seul coup, j'ai créé le lien que je n'avais pas avant, comment dire, aussi évidemment, entre le travail que je faisais, dont je savais que ça naissait d'une réflexion sur le plateau qui est née avec Didier, mais que je faisais sur Shakespeare avec Henri IV, le lien comme ça de construction, de fabrication à vue qui se constitue, qui constitue les êtres humains, avec le texte qui dit ça d'une façon permanente. Et là, d'un seul coup, ça me révélait évidemment. Donc, mais ça n'a pas été évident dans le travail d'atelier au départ.
Oui, alors justement, voilà, j'avais demandé comment tu as travaillé avec les jeunes acteurs là-dessus, comment...
Il y a deux choses.
Parce qu'à l'époque de violence, au moment où Gabi l'a créé avec vous, c'était complètement à chaud. Enfin, ouais. Cette constitution, sur le moment, elle était presque évidente puisque c'était ce qui se passait. Mais là, comment tu retrouves ce...
C'est-à-dire que il y a deux choses qui se sont mises en place. D'abord, il y a une première chose qui est cette démarche-là, je disais, ludique, d'avoir compris que le plaisir est didascalie qu'il y a chez Didier, qui met en jeu constamment cette fabrication. Donc ça, je me disais, tiens, je peux apporter ce rapport ludique avec les acteurs et donc les aider à appréhender Didier d'une façon plus concrète et plus directe avec le public, justement, qui est que d'un seul coup, c'est vraiment matériel, c'est pas une chose qui veut dire des choses, mais réellement, concrètement, on est en train de faire du théâtre. Vous-même, quand vous travaillez, c'est cet aveu de toi, acteur, donc ça, c'est de les saisir réellement sur l'immédiat de leur travail. Mais il y avait une deuxième chose qui m'est apparue très vite, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la langue. Et là, la poétique de la langue, je pouvais pas y échapper. Et au départ, c'était inaudible. C'est-à-dire, dès que tu fais du naturalisme sur... Gabili, ça ne marche pas, c'est inaudible. Dès que tu fais du formalisme un peu hystérique, c'est pareil, ça ne peut pas aller, c'est une distance, et d'un seul coup, on montre ça comme si c'était... Et je crois que quelque part, peut-être, je n'ai pas vu le spectacle de Stan, mais quelque part, c'était un peu peut-être le défaut de mettre en avant, en voulant tellement mettre en avant l'écriture, qu'on oublie que c'est un acte d'abord, la dramaturgie est un acte vivant, de corps. Donc, et ça, je me suis aperçu au bout de quelques jours, qu'il fallait absolument que je revienne à la langue et que ce travail-là devait passer par les acteurs. Au début, ils ont eu un peu peur du temps même passé autour de la table à proférer, à lire, à trouver dans cette écriture, parce que c'est vraiment une autre démarche qu'on a rarement au théâtre. Parce qu'il y a des gens qui travaillent à la table au départ, mais quand ils travaillent à la table, c'est plus « alors l'auteur va vous dire que, machin, alors tu vois... » Non, là, c'est pas... D'en parler, c'est de le vivre, réellement, autour de la table, de faire naître comme on disait à coucher, comment d'un seul coup de la langue, en étant dans ce mouvement de rythme, de la profération de cette langue, d'un seul coup les choses existent. C'est-à-dire, c'est un peu, c'est dans la continuité quelque part aussi de Claudel, par exemple, dans l'écriture de la versification, parce que c'est versifié chez Didier, pratiquement constamment, pas tout le temps, mais pratiquement, il y a une versification. Qui n'est pas des alexandrins, mais qui est une composition structurelle de l'écriture et respiratoire. Et chez Claudel, c'est une évidence qui est relativement acceptée plus ou moins par les gens qui la montent, qui est que d'un seul coup, il faut suivre cette respiration et que si on oublie un petit peu les personnages, la situation, même le dialogue, et qu'on suit réellement le mouvement, quelque chose va réellement se créer justement de la situation, des enjeux et d'une façon beaucoup plus charnelle. Et là, c'est pareil un petit peu. C'est pas tout à fait la même écriture, mais quelque part, en suivant réellement la rythmique, la déposition, la profération, le lyrisme qu'il peut y avoir et le rythme de tout ça, on s'aperçoit que d'un seul coup, ça se met à exister. Et l'évidence concrète des mots, des termes, devient beaucoup plus évidente. Et ça, il fallait qu'il l'éprouve, qu'il soit traversé réellement. Et donc, il a fallu 3 heures par jour, constamment, avant d'aller sur le plateau, faire ça. Et tout doucement, l'évidence a commencé à exister. Et là, ça m'a permis de travailler aussi sur le plateau après coup. Parce qu'au départ, le plateau, la mise en scène ne peut pas sauver cette chose-là. Je crois pas. Et puis en plus, la mise en scène, comme ça doit venir du plateau, là, c'est dépendant aussi de la langue. Donc, à la limite, dans Shakespeare, je pouvais encore construire de l'action qui fait que les gens sont dans cette perte d'action, qui fait que les mots peuvent sortir, l'histoire peut sortir, mais pas avec Didier. Didier, l'accouchement, comme on disait tout à l'heure, vient avant tout de qui parle et comment ça parle. Et voilà. Et c'est cette naissance-là qui va en mettre, qui va produire après peut-être de la mise en scène, des images, des choses, mais l'esthétique n'est que la conséquence de ça. Et tout, même dans la mise en scène, même s'il y a des images qui sont produites, qui peuvent être, j'espère, étonnantes, surprenantes, jubilatoires dans le spectacle qu'on présente, elles viennent constamment que du plateau. Et moi, pour que je puisse éventuellement les proposer, ou que les acteurs même des fois le proposent, il faut que justement il y ait quelque chose qui existe. Déjà au départ, dès leur présence et dès leur parole, pour que d'un seul coup se constitue l'accident qui va permettre que d'une lumière qui est au mur et qu'on met dans un berceau, ça crée une image d'un latour ou on ne sait pas quoi. Mais cette chose-là ne peut pas être une idée. Elle ne peut venir que de ce qu'on
parle,
du travail, de ce qu'on partage ensemble. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est difficile, je trouve, des fois, moi, quand je suis spectateur au théâtre, c'est que j'ai l'impression que le travail n'est pas mis en jeu réellement. Et donc, ce qui fait qu'on a un peu plaqué les idées d'un metteur en scène, plus ou moins intelligente, plus ou moins sur le texte, un travail exemplaire ou pas des acteurs, et encore un autre travail des lumières ou des costumes ou des décors, comme si chaque chose était séparée. Pour moi, ça c'est impensable. Si on fait du théâtre, c'est d'abord avant tout une aventure humaine. Et pour que cette aventure humaine existe, il faut que le travail soit en commun. Ça ne peut pas être autrement, et qu'on soit tous sur le même sens, le même mouvement. Alors après, moi, mon rôle est de diriger toujours et de jamais tricher. D'être dans l'exigence de ne pas tricher avec moi et de ne pas tricher avec les gens avec qui je travaille, technicien ou acteur, sur même les moments où je ne sais pas. Mais aussi sur l'exigence que dès que je vois qu'il y a quelque chose qui me semble tricher avec l'enjeu qu'on est en train d'avouer justement, et ben de mettre le doigt dessus et de continuer à travailler.
Et dans ce sens-là, tu as l'impression que c'est...
Eux, ils attendaient ça aussi. Ouais. Il se trouve que je suis tombé sur, comme je disais tout à l'heure, un groupe qui venait de vivre en plus avec un autre metteur en scène quelque chose d'un peu difficile dans le travail. Et en plus, moi je les appelle, bon, je sais un peu, je répète tout le temps ça, il faudrait que j'arrête, mais j'ai rigolé en disant qu'ils étaient un peu les bâtards, parce qu'ils avaient été sélectionnés par Martinelli, et puis ils étaient sous l'air de Braunschweig. Donc, quelque part, je les sentais un peu à part, et puis ils avaient dû se recentrer sur eux-mêmes. Et quelque part, ils n'attendaient pas la sortie de l'école comme des gens qui se disent « on est une élite ». Ils avaient une sorte de forme d'humilité par rapport à ça et une très grande solidarité. Ce qui fait qu'ils ont été, malgré la difficulté du travail au départ, très à l'écoute, très en travail et très cédants mutuellement. Et je les voyais, ils allaient parler entre eux. Au départ, j'étais même très surpris parce que ce n'est pas des choses que je vois quand je travaille en atelier. De voir qu'à un seul coup, tu dis une chose, même si tu ne sais pas tout ce que tu racontes, tu dis attends, c'est pas clair. Et de voir un autre acteur aller parler à l'autre pour l'aider à aller vers ce mouvement-là. Et ça, c'est une grande force, je trouve, de leur part. Et puis, le fait de cette difficulté, et d'un seul coup la traverser, l'éprouver, et passer outre, d'un seul coup, ils ont vu aussi au fur et à mesure les choses s'accomplir. Et puis après, au moment des présentations avec les gens, même les parents d'élèves qui viennent voir les différents travaux, ils sont là, ils disent bon, « j'ai pas tout compris, machin ». Et là, ça aussi, ça m'a touché par rapport à Gavilly, alors qu'on était en plus... Le texte de Didier est antilinéaire, mais moi, en plus, en croisant le diptyque, c'est encore pire, si on veut, au niveau de la linéarité. Je complique, a priori, la chose. Et de voir que les gens étaient là dans l'évidence de ce qui se passe et que la compréhension passe d'abord par l'immédiat de ce qui est en train de se vivre, et que les parents disaient « non, j'ai tout compris, c'est pas possible qu'ils ont tout compris, puisque la fable, elle-même, après avoir lu 15 fois, moi-même, j'ai encore des trucs où je me dis « mais attends, Igon, c'était peut-être la menthe de la reine mère, et que c'est des fausses pistes constantes. » Mais par contre, ils étaient dans l'évidence de ce qui se passait, et pour eux, d'un seul coup, Gabelli, c'était un auteur très compréhensible. Alors cette évidence-là de revenir au vivant, et que finalement on parle constamment de théâtre, et à cet endroit-là, ça c'est éminemment politique, et que les gens le prennent comme une évidence, ça je me dis, tiens, ça est peut-être c'est peut-être une chose qu'il faut faire. Parce qu'au départ, c'est ça que tu me demandais tout à l'heure, mais après, au moment des présentations, c'est surtout les élèves qui avaient envie de continuer cette aventure, parce qu'ils avaient vécu quelque chose de fort avec moi et avec le public. Ils voyaient qu'ils faisaient quelque chose qui est... Et en plus, au fur et à mesure, ils ont adhéré aussi au travail, donc ce qui fait que, comme ils étaient déjà un peu un groupe, d'un seul coup, ça devenait leur projet à défendre. Une force qui s'est accentuée même après Avignon, le fait de ne pas avoir joué. Ils étaient encore plus solidaires et encore plus dans le désir de jouer. Et ce spectacle, leur engagement est vraiment à 200% à ce niveau-là. Mmh. Ça, c'est une chance aussi. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou eux, ou c'est des allers-retours, mais... puis c'est aussi mon engagement à moi, parce que quand je fais un travail, je ne sais pas faire autrement que de m'engager à 200%. Donc après, peut-être que les gens le sentent aussi. Mais... Et puis après, d'autres gens qui me disaient, ouais, ça serait bien que de vous le repreniez, etc. Et là, je me suis posé la question simplement par respect par rapport à l'écriture de Didier, si ça valait vraiment le coup. Et là, du fait des gens qui disaient que ça a été écrit pour lui, pour eux, on dirait que ça a été écrit pour eux, que des gens trouvent ça évident, que je me dis, c'est important que même si les gens parlent maintenant, depuis sa mort, de l'écriture de Didier, mais en le mettant un peu au-dessus sur un piédestal, mais sans dire en quoi elle est vivante réellement, d'un seul coup, je me dis, on peut apporter ça. Alors, c'est pas non plus très public, hein. On joue aux têtes de Gennevilliers à Strasbourg, et puis après deux fois, puis c'est tout, mais que ça soit entendu. C'est pour ça que j'avais poussé que ça soit à Avignon aussi, qu'on puisse le faire à Avignon, parce que je me disais que cette parole-là, dans un lieu très public, allait être différente et être entendue. Malheureusement, on n'a pas pu jouer, mais bon, voilà. Ça, c'est aussi les circonstances qui font que la vie te rattrape aussi, la vie sociale. Et puis qu'en plus, quand tu montes du Gabelli qui est éminemment politique, tu ne peux pas d'un seul coup t'aveugler et dire non, on joue quand même, c'est pas possible. Non, il y a un moment où il faut que tu aies une conscience, parce qu'effectivement, ce que tu demandes à des acteurs, tu peux pas leur demander d'être à 200%. Sur ce que dit le texte, sur l'engagement de ce travail, sur la revendication même de ce travail, et de faire abstraction du monde autour, alors que Didier est traversé constamment par le monde extérieur. Et il le dit constamment dans Violence, où d'un seul coup, les personnages se disent « Bon, attendez, stop, je m'arrête. Enfin, peut-être que vous avez lu le journal, hein, il se passe ça dans le monde en ce moment, comme si ça n'avait rien à voir avec l'histoire, mais qu'il fallait absolument que ce qui se passe dans l'actualité revenait aussi... » et son influence sur le plateau. Donc il faut quand même que nous, on n'allait pas le nier.
Tout à l'heure, tu disais que tu avais croisé les deux parties.
Oui.
Mais ce n'est pas les seules modifications.
C'est la seule modification. J'ai monté l'intégralité du texte sans changer l'ordre. Jamais j'ai changé la chronologie. La seule chose que j'ai faite, c'est de croiser deux ou trois fois les deux parties. Alors, ce n'est pas une idée dramaturgique.
Et c'est ça, reconstitution, c'est ça.
C'est ça que je rajoute en disant reconstitution. Je monte Violence et je rajoute reconstitution pour être dans l'honnêteté de cette trahison, on va dire, vis-à-vis de Didier. En même temps, quelque part, c'est aussi un grand respect vis-à-vis de l'écriture de Didier de faire cette trahison. Parce que quelque part, c'est aussi, lui, il était, même de ses propres textes, quelque part, il était dans un travail d'écriture. Donc, il était capable de remettre en question sa propre écriture au moment où il était en tant que metteur en scène, il changeait de casquette. Et c'était la meilleure chose qu'il pouvait faire, même par rapport à son propre texte. Mais rien, j'ai remodifié rien du texte de Didier. Par contre, effectivement, j'ai croisé le diptyque. C'est un accident. C'est-à-dire un accident qui a créé l'aventure humaine, unique, qui est la leur. Mais ce n'est pas une volonté de ma part. C'est-à-dire, si j'avais décidé, avant de rencontrer les élèves, de monter Violence de Gabelli, j'aurais monté en diptyque. J'aurais pas eu l'idée saugrenue de croiser le diptyque et d'en faire une sorte de pseudo-triptyque. Mais il s'est trouvé que dans la pratique du travail d'atelier, je me suis dit, on peut pas tout monter. Donc, puis il fallait que je fasse travailler des gens aussi avant. Donc je me suis dit, tiens, je vais croiser le diptyque. Puis en pensant ça, là, c'est où je me suis aperçu que ça, on pouvait le rendre cohérent. C'est-à-dire que la dynamisme, le croisement allait créer une dynamique qui allait accentuer encore plus comment le diptyque se répond de l'un à l'autre et comment la structure du texte est en permanence en écho. C'est-à-dire que dit que la, comment dire, mettre en jeu la structure du texte pour le travail d'atelier. Mais quand on a accompli cette chose-là et qu'on a décidé de le, d'aller jusqu'au bout, et ben, il fallait aller jusqu'au bout, mais déjà, je n'allais pas tout rayer,
redéfaire,
ce n'était pas possible. Toute la démarche qui était à l'intérieur de ça avait une logique qui était celle, la leur, la nôtre, celle qu'on avait vécue. Donc, il a fallu que je réfléchisse pour savoir comment ça allait. Maintenant, je m'aperçois quand même, n'en déplaise à ceux qui seraient choqués par le croisement du diptyque, que c'est que je suis dans un énorme respect de ce diptyque. Alors, après, on a des faillibilités de, je dirais, d'acteurs de travail qui fait que des fois, ce n'est pas toujours aussi lisible que je le voudrais. Mais, constamment, on ne dit que le diptyque. C'est-à-dire que la première partie, on peut dire qu'il y a trois mouvements dans la première partie. Un mouvement de naissance, par ces longs monologues, et puis un moment d'accomplissement, par la, surtout la scène des masques, et puis un moment de déposition, qui est la, vers la mort et la, la parole de la ravie. Dans la deuxième partie, c'est la même chose. Il y a une première partie qui est de l'ordre du démarrage, comment on raconte l'histoire, le gardien, à nouveau, reconstitution de cette histoire, à nouveau, accomplissement théâtral par les dimanches, où d'un seul coup, on affirme quelque part une théâtralité particulière qui est celle du sitcom, c'est comme disait Didier, mais d'une idée du théâtre contemporain qui s'accomplit même dans son échec, mais qui s'accomplit, de la représentation, et puis à nouveau vers la déposition quand on arrive dans ceux-là quatre qui sont le Noël et tout ça, la table. Donc ces trois mouvements sont similaires, parallèles. De plus, dans l'écriture de Didier, les deux pièces, et lui-même le disait, sont en dualité et en conflit permanent. Lui-même, dans sa scénographie, c'était la même scénographie de Violence 5, de Violence 2. Et elles se répondent d'une façon permanente, en écho. Et le fait de les croiser, pour moi, je pense qu'on met encore plus en avant cet écho-là. Et que quelque part, on entend constamment, par exemple, même au niveau de la fable, les trois sœurs, quand elles jouent, alors que quand on jouait à la création et qu'on faisait Violence 1, puis après Violence 2, sur la durée de Violence 2, l'écho de Violence 1, ben c'était, il était passé depuis un moment. Hein. Alors que là, il est permanent. On est sur le plateau de Violence 1. Et on joue, et les deux s'entrechoquent. Le conflit est permanent. Donc à ce niveau-là...
J'ai l'envers et l'endroit. En fait,
voilà. Et constamment, on a les deux. Et finalement, le mouvement s'accomplit exactement de la même manière. Et on finit quand même sur la ravie. Et l'accomplissement à la fin où tout le monde est réuni, nous, on le faisait ça. D'ailleurs, moi qui jouais le troisième fiancé, à la toute fin du spectacle, je revenais en décharme. C'est, pour danser avec, je ne sais plus qui, le gardien. Et on faisait une danse. Donc ce mouvement-là est complètement pour moi dans l'esprit et l'écriture de Didier. Donc de cet accident, qui n'est pas volontaire de ma part, une idée que j'aurais eu de génie, finalement, je trouve qu'elle est non seulement dynamique, mais pertinente par rapport à l'écriture. Parce que aussi, je pense que profondément, quelque part, il a écrit Violence 5, qui est pour moi la plus grande pièce contemporaine que j'ai jamais lue et qui est totalement accomplie. Et Violence 2, qui, quels que soient ces moments qui sont magnifiques hein, par moment, est un rajout, un superbe rajout qui se revendique comme rajout. Allez, on va vous en rajouter une couche. Mais aussi dans l'œuvre de Didier de donner à d'autres acteurs la possibilité de s'exprimer aussi. Et finalement, ben, c'est lourd aussi cette démarche-là. Et en faisant ça, finalement, je trouve qu'on la rend beaucoup plus évidente et plus forte, cette chose-là. Et puis dernièrement, et ça pour moi justifie tout, c'est j'en reviens au départ, c'est que ça devient notre aventure, notre histoire, l'histoire humaine de ces gens-là qui n'ont jamais connu Didier et qui l'ont traversé avec moi. Et à nouveau, on est dans une aventure unique. C'est-à-dire, comme disait Didier, cette écriture, c'est un chantier. C'est une charpente à voir si ça tient. Et si nous, on n'est pas dans la même démarche, ça ne veut pas dire qu'il faut le monter en croisant les choses. Je le remonterai, peut-être que je le remonterai en diptyque. Mais d'être dans cet esprit-là de démarche, que c'est de la matière à remettre en question, à retravailler. Et lui-même ne faisait pas autre chose quand on travaillait sur l'Orestie. D'ailleurs, je suis parti scénographiquement de la même mise en place. C'est-à-dire que comme je n'avais pas le temps avec les élèves de proposer un décor et comme la scénographe, on a travaillé ensemble, tout de suite j'ai dit, ben voilà, il y a des gradins au fond puis un espace devant, parce que je me rappelais que je trouvais assez beau la façon dont il avait appréhendé Claudel et Eschyle à travers l'Orestie, Didier, c'est qu'il avait mis des gradins au fond, les acteurs étaient là, et puis il y avait un espace vide dessus, puis comme il avait fait un montage, lui aussi, de le rester. On avait quand même monté 3-4 heures de spectacle, mais c'était quand même le triptyque qu'on montait. Mmh. Donc,